On va lire les quelques derniers versets de Romains chapitre 2. Enfin, on va lire à partir de Romains 2, 25. Certes, la circoncision est utile. En fait, ici, Paul, dans ces chapitres-là, il cherche à démontrer qu'on est tous pécheurs, juifs et grecs. C'est-à-dire, juifs, ceux qui sont circoncis, ceux qui ont la loi, grecs, de manière générale, ceux qui ne sont pas circoncis, ceux qui ne connaissent pas la loi, ceux qui sont sans Dieu, sans espérance dans le monde. Hein ? Certes, la circoncision est utile si tu pratiques la loi. On est dans Romains 2, 25. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Paul dit ailleurs, celui qui se fait circoncire doit accomplir toute la loi. Donc, si tu es circoncis mais que tu transgresses la loi, ta circoncision ne te sert à rien. Verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, vous me direz, comment se fait-il qu'il peut observer les ordonnances de la loi puisqu'il est incirconcis, il ne la connaît pas. Ça, il l'a dit un peu plus haut. Il l'a dit au verset 14. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. C'est-à-dire que, profondément dans chaque être humain, Dieu a déposé quelque chose. Et donc, même si on n'a pas eu l'enseignement de la loi, la révélation spéciale donnée à Abraham, il y a une révélation générale qui remonte jusqu'à Noé. Il y a aussi le fait que chaque être humain a une sorte d'empreinte de Dieu sur lui, qui fait que, profondément, on a conscience du bien et du mal. D'accord ? Si donc l'incirconcis, celui qui n'a pas la loi d'un point de vue extérieur, mais seulement d'un point de vue intérieur, si vous préférez, hein, observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? Parce que finalement, si lui qui n'a pas la circoncision, il observe la loi, on dira, ben, tu vaux bien circoncis, en quelque sorte, vous voyez ? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Donc en fait, ici, il s'adresse vraiment, Paul s'adresse aux juifs religieux et lui dit, toi qui te fais une gloire de la loi, fais attention, parce que si finalement tu la transgresses secrètement sans que personne ne le voie, et que le païen, lui, il la met en pratique, entre guillemets, naturellement, si on peut dire ça comme ça, et il a des raisons de te condamner. Le juif, verset 28, ce n'est pas celui qui en a les apparences, mais il faut comprendre ici le vrai juif. D'accord ? Il n'est pas en train de dire que tous les juifs qui transgressent la loi ne sont plus des juifs et que. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. D'accord ? Il dit le vrai juif, et quand il utilise le mot juif, il veut dire le juif au sens religieux. D'accord ? Le vrai juif, si on peut dire, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, ou si vous préférez, le vrai juif, dans le contexte, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. Ici, il y a une opposition entre l'esprit et la lettre. Ce n'est pas une opposition entre l'esprit et la parole. Parce que la parole et l'esprit vont toujours ensemble. Quand il est parlé de la lettre, il s'agit de la parole sans l'esprit. La lettre qui tue. Vous voyez, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Hein ? On retrouve ça dans 2 Corinthiens 3, dans Jean 6, 63, l'opposition entre la lettre et l'esprit. Par contre, Jésus dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, Dieu est pour la parole. D'accord ? Il n'oppose pas l'esprit à la parole. En fait, l'esprit et la parole, c'est presque une seule et même chose. Ils sont toujours unis ensemble. La lettre, c'est quelqu'un qui croit avoir la parole, mais qui n'a pas l'esprit. Et qui, avec cette lettre qui tue, va faire du mal, parce qu'il a le texte, il a la connaissance, mais il n'a pas l'esprit pour le mettre en pratique. Vous suivez ? Quel est donc, maintenant on arrive au chapitre 3, verset 1, quel est donc le privilège du juif ? Ou quelle est l'utilité de la circoncision ? C'est-à-dire maintenant, il dit, parce qu'il est bien conscient, Paul est conscient de ce que dans ce qu'il vient de dire au chapitre 2, il a ouvert une porte à une question. Dans le sens de dire, alors si le vrai juif, c'est celui qui met en pratique la loi, donc il faut abandonner toutes les traditions, la circoncision, le fait que mon père soit un Lévi, un Cohen, ça m'est complètement égal, ça ne veut plus rien dire, etc. D'ailleurs, Paul dit dans Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, donc c'est bien la preuve que ça ne sert plus à rien. Il y en a qui vont jusqu'à dire que le retour du peuple hébreu en Israël depuis la fin du 19e, début du 20e siècle et la naissance de l'État d'Israël en 1948, il y en a qui disent que ça, c'est pas biblique, que ça n'a rien à voir, que tout ça s'était aboli, vous voyez ? Parce qu'il s'appuie sur ce texte. Mais il fallait lire le chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit Paul ? Il pose la question, oui, alors vous allez me dire quel est le privilège du juif ? Quelle est l'utilité de la circoncision ? Finalement, ça sert à quoi ce peuple d'Israël ? Vous voyez ? Eh bien, Paul, au lieu de dire, eh bien, effectivement, ça ne sert plus à rien, vous pouvez oublier, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il dit au verset 2, considérable de toute manière. Quand il dit de toute manière, ça veut dire de toutes sortes de manières. Hein. Tout d'abord, et puis il va commencer une liste, mais cette liste, on ne va pas la terminer au chapitre 3, on la terminera au chapitre 9. Parce que Paul c'est comme si, à cause de la question qu'il a suscitée dans Romains 2, 29, il se sent obligé d'y répondre. Mais ce n'est pas ici qu'il va y répondre complètement, parce que ça le ferait sortir de son sujet, qui est pour le moment plus la justification. D'accord ? En parlant de justification, il est obligé de parler du contraste entre les Juifs et les Grecs, parce qu'il y en a parmi eux, les Juifs en l'occurrence, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de justification parce qu'ils pratiquent la loi. D'accord ? Et Paul est en train de leur dire « ça ne marche pas comme ça ». Donc il est obligé de soulever le problème, mais il va vraiment en traiter à fond dans les chapitres 9, 10 et 11 de Romains. Vous suivez ? Donc là, il dit tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Qu'est-ce qu'on appelle les oracles de Dieu, à votre avis ? Dites-moi, à voix haute.
Les oracles, c'est les pensées, c'est...
Les pensées, les commandements. En fait, c'est un mot qui désigne tout ce qui est prophétique, tout ce qui est parole révélée, inspirée de Dieu. Donc en fait, ça désigne les Écritures. D'accord ? Ici, ça désigne toutes les Écritures, la loi, les prophètes et les écrits. D'accord ? Les oracles de Dieu. Eh bien, ils ont été confiés aux Juifs. Donc, cette petite phrase-là, elle a énormément d'importance et elle veut dire beaucoup plus que tout ce qu'on imagine. D'accord ? Quand il est dit « les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs », c'est dire « ce peuple a été choisi par Dieu, premièrement, et pas seulement pour ça, mais premièrement, pour prendre soin de la parole écrite. » Vous voyez ? C'était leur job. C'était leur vocation. Ils l'ont mise par écrit, cette parole. Mais comment est-ce qu'ils l'ont mise par écrit ? Comment est-ce qu'ils en ont pris soin ? Donc je fais une petite parenthèse ici. Dieu d'abord s'est révélé à Abraham, d'accord ? Et Abraham a enseigné ses fils. Dans Genèse 18, il est dit à Abraham d'enseigner ses fils et tes fils enseigneront leurs fils, etc. Donc c'était déjà à partir d'Abraham, le principe était posé, vous vous enseignerez dans la famille, vous transmettrez de père en fils, de neveu en d'oncle en neveu, enfin je veux dire, il faut que ça passe d'une génération à l'autre. Et ils le font, à partir d'Abraham, au point que à l'époque de Moïse, quand il donne la loi ne sort pas, comment dire, c'est pas une nouveauté à 100%, la loi de Moïse. Ok ? Elle était déjà transmise depuis Abraham. Les principes de la loi existaient déjà dans le peuple d'Abraham. Voyez ? Simplement qu'ils n'avaient jamais été codifiés, ils n'avaient jamais été mis par écrit, et la révélation que Moïse a est beaucoup plus large, beaucoup plus grande et beaucoup plus forte que tout ce qu'ils avaient eu avant. Mais il y avait déjà une sorte de tradition où on savait déjà comment se conduire. La circoncision était déjà là. Elle est codifiée dans la loi de Moïse, mais elle existait depuis Abraham, par exemple. La dîme existait déjà depuis Abraham. Et il y a plein de choses qui existaient déjà. Mais elles avaient été transmises comme dans une famille, on vous dit non, dans notre famille, on met le couteau à droite et la fourchette à gauche. À Noël, on ne fait pas... sais pas, moi, on fait toujours la dinde, on fait pas, ou bien on fait non, on fait une, qu'est-ce qu'on peut faire, une oie, voilà, Noël dans notre famille c'est une oie, c'est pas une dinde, c'est une tradition, enfin, bon, je vous prends des exemples un peu simples de la vie courante à la française, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ce qui est devenu une loi codifiée était auparavant une tradition familiale, vous suivez, tradition familiale, transmise de père en fils. Bien sûr que ces traditions familiales n'avaient pas été inventées par Abraham, c'était une révélation qu'il avait reçue. Jacob a eu une révélation, Isaac a eu des révélations, tous les trois, ils ont été touchés par Dieu, ils ont eu des révélations. Et même entre les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et Moïse, d'autres, comment dire, étaient en relation avec Dieu, ils priaient, vous suivez? Donc tout ça, c'était déjà présent. Si bien que quand Moïse écrit la loi, il commence par la Genèse. Et dans la Genèse, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. Vous voyez? Toute cette équipe-là. Les 12 patriarches, avec leurs problèmes. Et comment est-ce qu'ils ont dû faire face aussi à leurs problèmes et se rendre compte de leurs péchés et qu'ils n'ont pas pu cacher leurs péchés plus longtemps. Vous voyez? Tout ça, ça fait partie de l'enseignement de la loi. Quand Moïse enseigne la loi, il ne fait pas que donner un code, interdit de faire ceci, interdit de faire cela, permis de faire ceci, permis de faire cela. C'est beaucoup plus que ça. Il enseigne dans le sens qu'il explique d'où ça vient. Il explique comment ces différentes générations entre Abraham et Joseph et ses frères ont appris à connaître Dieu. Vous voyez ? Comment Dieu les a fait sortir du péché de l'idolâtrie. Comment petit à petit, ils ont découvert les principes de la loi de Dieu. Et en racontant cette histoire à Israël, puisqu'il s'agit de leurs ancêtres, il est en train de leur dire, voilà, si nos pères ont dû passer par ces souffrances et ont dû comprendre ces principes au travers de leur vie, eh bien, nous aussi, on doit les mettre en pratique. Vous voyez ? Ce qui n'empêche pas qu'ils donnent en plus, effectivement, des lois, des choses. Mais quand il est dit dans Exode, chapitre 20 ou 21, que la manière dont il faut construire un autel en pierre ou en terre, etc., comment il faut monter sur l'autel pour faire sacrifice, mais Abraham le faisait déjà, puisqu'il est dit qu'Abraham construisait des autels. Vous suivez? Donc c'est pour vous dire qu'il y a un lien étroit entre le peuple, la vie d'un peuple, et puis la loi qui est écrite. Vous suivez? Donc, maintenant, quand il est dit que Dieu a confié ses oracles au peuple juif, comment ce peuple a pris soin de ses oracles? De deux manières, ou de trois manières, si vous préférez. Du point de vue très pratique, ils ont mis par écrit la loi, et puis ensuite, ils l'ont recopiée de génération en génération. Vous voyez? Parce que les manuscrits n'étaient pas... ils pouvaient être touchés par l'humidité, ils pouvaient subir des avaries qui faisaient qu'il fallait avoir plusieurs manuscrits et il fallait les protéger et les recopier. Vous suivez? Maintenant, comme la langue hébraïque est une langue sans voyelle au départ, les voyelles ont été ajoutées avec ce qu'on appelle les points voyelles beaucoup, beaucoup plus tard. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de voyelles. C'est comme si vous écriviez le français sans voyelles. Vous voyez? Mettons que vous écriviez la lune. Vous allez écrire LN. Oui, comme, vous voyez? Hein, LN. Mais,
ça maintenant avec les SMS.
Voilà. Avec les SMS, on fait comme ça. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a certains mots, si on n'a que les consonnes, qui, en fonction des voyelles qu'on va mettre, peuvent avoir plusieurs sens. Ça peut faire plusieurs mots différents. Et donc, vous ne pouviez pas juste connaître le texte avec les consonnes. Il fallait le connaître oralement. Enfin, il fallait le connaître d'oreille. Vous suivez? Donc non seulement il le mettait par écrit, mais en plus, il le psalmodiait. Il le disait. Il le répétait et il le connaissait d'oreille. Si bien que si vous aviez le texte sans les voyelles et que vous ne connaissiez pas le contexte et l'histoire, vous pouviez avoir des fois, vous pouviez ne pas comprendre ou prendre un mot pour un autre, etc. Il n'y avait que ceux qui enseignaient, qui transmettaient, qui savait quel était le vrai sens, vous voyez? Alors bien sûr, il y avait quand même, il n'y avait pas 50 possibilités, mais si vous voulez, il fallait quand même, il n'y avait pas que l'écrit, il y avait aussi l'oral, une transmission orale. Et donc ça impliquait aussi une étude. Parce qu'il fallait pas seulement transmettre une histoire, mais il fallait l'étudier, la comprendre. Chaque mot commence à avoir un sens, etc., etc. Et donc, l'étude de la parole, la mise par écrit, la transmission orale. Et puis finalement, peut-être encore plus important, c'était la mise en pratique. Donc ce peuple avait les oracles et donc la loi de Dieu, il la mettait en pratique, avec plus ou moins de bonheur, d'accord ? Ils avaient les prophètes qui leur disaient « Attention, là vous êtes éloignés ». Ils avaient les scribes, qui étaient ceux qui étudiaient la parole, à partir d'Esdras, mais peut-être déjà avant, en tout cas à partir d'Esdras, il y a eu un conseil de 70, entre 70 et 120 scribes ou docteurs de la loi qui étudiaient la loi et qui étaient les anciens d'Israël, en quelque sorte. Et on les a appelés le Sanhédrin. Et leur job, c'était de protéger cette parole, de veiller à ce qu'on la mette bien en pratique. Donc Dieu leur a confié ces oracles, vous comprenez ? Pour eux, ce n'était pas juste un livre. Parce qu'à la limite, on vous dit, tiens, je te donne un livre, tu le gardes bien dans une armoire, et puis dans 500 ans, il faut que je puisse le retrouver. C'est pas juste ça. Hein. C'est pas juste ça. D'abord, il fallait l'écrire, le livre. Et ceux qui l'ont écrit avec leur sang et avec leurs larmes. Quand vous voyez la vie des prophètes, quand vous voyez même les souffrances de Moïse, enfin, tous ces hommes qui ont écrit la parole de Dieu, ils en ont souffert. Vous voyez ?
Est-ce qu'on sait qui a écrit ces livres ? Parce que...
Ah, on connaît les auteurs de l'Ancien Testament, oui.
L'histoire de Moïse n'est pas racontée par Moïse, par exemple.
Si. Ah non, mais à tout à la fin du livre de Moïse, quand il est dit comment est-ce que Moïse est mort, évidemment, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais c'était des disciples.
Parce que c'est écrit Moïse a fait ci, ou sinon s'il aurait écrit.
Alors, non, c'est une bonne question que tu poses, mais quand il est. Moïse ne dit pas je, mais il dit Moïse. Mais à l'époque, c'était tout à fait courant de parler de soi-même sans dire je. D'accord ? Si moi, par exemple, j'écrivais ma biographie, etc., enfin, et que j'étais un homme de l'époque, je dirais Jean-Hugues fit ceci, Jean-Hugues fit cela. Je ne dirais pas je fis ceci, je fis cela, vous voyez ? Il y a certains moments où il y a le je, par exemple, dans Néhémie, parce que c'est une sorte de journal qu'il a écrit, vous voyez ? Mais très souvent, c'est à la troisième personne. Et ça, c'est des procédés littéraires qui sont courants et normaux dans l'Orient ancien. Tu vois ? Donc tout ça s'explique. Mais je n'ai pas le temps de développer ça, parce que là, on sort complètement du sujet. Mais c'est pour vous dire que quand il est dit que le privilège du juif ou l'utilité de la circoncision, c'est-à-dire à quoi sert, si on posait la question de manière un peu prosaïque, à quoi sert un juif ? Vous voyez ? Mais c'est tellement important qu'on ait ce peuple, qu'on ait cette histoire. Parce que sinon, si vous voulez, c'est comme si notre évangile, comme ça, tomberait du ciel. Mais quelle preuve est-ce qu'on aurait que ce n'est pas un ovni ou, enfin, je sais pas, un espèce d'être céleste qui vient nous raconter des bêtises ? Non, la preuve a été faite sur la terre. Il y a un peuple qui l'a éprouvé, cette parole, pendant des millénaires, qui l'a étudié, qui a eu cette rencontre avec Dieu, qui s'est heurté à la réalité de la parole prophétique, qui a parfois désobéi et puis il est entré dans la malédiction, qui a parfois obéi et qui a vécu une bénédiction extraordinaire, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tout ça, ça a été éprouvé, ça a été mis à l'épreuve. Et la parole de Dieu, elle est 7 fois éprouvée, il est dit. Vous voyez ? Donc, on a une assurance extraordinaire concernant la parole de Dieu. Vous voyez ? Grâce à ce peuple à qui elle a été confiée, et qui, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, malgré toutes ses faiblesses, malgré tous ses découragements, etc., a tenu jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, allez à la synagogue, vous verrez, il y a un moment dans la cérémonie où il y a une sorte de sanctuaire devant, et c'est des portes souvent dorées, on ouvre ces portes, et puis il y a les rouleaux de la Torah, et puis le rabbin ou le servant prend ses rouleaux contre lui, et puis il les serre contre son cœur, il danse, et fait le tour de la synagogue, et tout le monde essaie de toucher le rouleau, parce que ça montre leur amour pour la parole de Dieu. D'accord ? Ça, c'est juste un petit... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? C'est juste un petit... une petite image, enfin une sorte de mise en scène. C'est une mise en scène de quelque chose d'intérieur très fort pour Israël. Quand ils recopient un manuscrit, ils n'ont pas le droit de toucher le papier du manuscrit. Enfin, le papier ou le... C'est pas du papier, c'est du parchemin. On ne le touche pas. Parce que ça le souillerait, vous voyez. Donc on a un petit instrument en argent pour ne pas le toucher. Et chaque fois qu'ils écrivent le nom très saint de Dieu, qu'ils n'ont pas le droit de prononcer, ils se lavent les mains avant, ensuite ils l'écrivent, ensuite ils vont se laver les mains, puis ils continuent. Et puis ensuite, ils font des calculs. Chaque lettre a une valeur numérique, donc ils font les additions en colonnes, en lignes, et il faut que la page du nouveau manuscrit qui est en train d'être écrit et la page de l'ancien, il faut que les totaux soient pareils. Sinon, ça veut dire qu'il y a une lettre qui a été prise pour une autre, qui a été mal retranscrite. Vous suivez ? Et en fait, ça, c'est des systèmes qui existent maintenant dans l'informatique. On utilise le même système en informatique. Mais eux, ils l'avaient déjà avant que l'informatique existe, pour veiller à ce que le texte soit absolument le même. C'est pour ça que Jésus dit, tant que la loi ne sera pas passée, un seul trait de lettre, d'accord ? Parce que chaque trait de lettre avait sa valeur. Donc, ils étaient à la fois extrêmement précis pour le texte, ils étaient très, j'allais dire, pinailleurs pour l'étude et l'interprétation, d'accord ? Ils étaient aussi pinailleurs pour la mise en pratique, vous voyez ? Parce que pour eux, la mise en pratique, enfin, ils étaient gardiens de la loi presque dans leur corps, dans leur famille, dans leur pensée, dans leur intellect. C'est énorme quand Paul dit Dieu leur a confié ses oracles, mais on ne peut pas imaginer tout ce que ça représente. Vous voyez ? Je vous donne quelques éléments pour que vous puissiez avoir une sorte d'avant-goût. Et quelque part, nous-mêmes, en tant que peuple de Dieu, même si ce ne sera pas tout à fait de la même manière, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes en termes d'écrit, mais on devrait être un peuple de la parole et avoir autant d'amour pour la parole. D'accord ? Simplement, le grand problème de Paul avec son propre peuple, c'était le problème qu'il avait lui-même avant sa conversion, c'est qu'il s'était tellement attaché à la lettre, à cause de cette mission qui leur avait été donnée, qu'ils en avaient perdu l'esprit. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il dit, la louange de ce juif, verset 29, le juif, ou si on pourrait dire le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, la circoncision c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Vous voyez ? Et donc, un des enseignements de l'Épître aux Romains, c'est d'expliquer cette expression selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, on va le voir. Verset 3 du chapitre 3. Et quoi ? Si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu ? Parce que, vous voyez, Paul anticipe toujours nos questions. Alors, quelqu'un dira, ok, Dieu a confié ses oracles au peuple d'Israël. Mais alors, il faut voir ce peuple, le peuple au cou raide, vous voyez ? Là, on est bon pour dire ça, ils ont la nuque raide. Comme ils se sont rebellés contre Dieu, ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils ont fait n'importe quoi, Dieu a été obligé de les punir, et puis ensuite ils sont revenus dans leur pays, et puis ils ont recommencé à pécher, et puis exilés, retour d'exil, etc. On n'en finit pas de cette histoire, vous voyez, si vous lisez l'Ancien Testament. Donc, comment voulez-vous qu'un peuple aussi infidèle puisse être un bon gardien des oracles de Dieu et finalement être utile à quelque chose à Dieu. Et Paul dit, attendez. Si quelques-uns ont été infidèles, c'est-à-dire que tous n'ont pas toujours été infidèles, il y a toujours eu un reste fidèle, toujours. Donc ce n'est pas ceux qui sont infidèles qui enlèvent la fidélité de ceux qui sont restés fidèles, premièrement. Il précise, si quelques-uns, et il reviendra là-dessus dans Romains 9 à 11, si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu. En fait, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire de sa fidélité par rapport à un peuple qui a été difficile. Et finalement, c'est un miroir de notre propre vie personnelle. Si Dieu était aussi fidèle avec ce peuple avec lequel il a eu tellement de difficultés, au point qu'il a dit des fois à Moïse, « Bon, laisse-moi faire, je vais les détruire. » Et Moïse dit, « Non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. » Puis après, c'est Moïse qui se met en colère. « Seigneur, regarde ce qu'ils ont fait !» Et puis Dieu dit, « Bon, alors, occupe-toi de ton peuple, alors. » Donc il se renvoie un peu la balle. Ça, c'est très intéressant dans l'Exode. Mais, si Dieu était tellement fidèle avec ce peuple, sur des millénaires, au point que pendant presque 2000 ans, il priait l'an prochain à Jérusalem, dans la diaspora, et en 48, Israël était redevenu un État. Quel miracle ! Dieu était fidèle jusque-là, vous voyez ? Donc si Dieu est fidèle jusque-là pour un peuple sur des millénaires, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas fidèle avec nous sur 50 ou 80 ans? Vous voyez, je veux dire. Oui.
Dans Zacharie, ouais. Quand Dieu il parle à l'ange, parce que l'ange lui dit de combien de temps tu vas, et Dieu lui dit, moi l'Éternel, je vous dis que ça fait 70 ans que je suis en colère contre Jérusalem. Et en fait, il a dit, et Dieu il dit, moi l'Éternel, je rebâtirai dans cette ville.
Ouais.
Alors ça nous montre...
Oui, il y a beaucoup de prophéties. Là, tu cites Zacharie, il y a aussi Jérémie dans les chapitres 30, où Jérémie sait de la part de Dieu, il est prophète, que Babylone va envahir Jérusalem, que tout va être détruit, qu'ils vont être déportés. Et c'est là que Dieu lui dit, achète un champ. Il dit, mais enfin Seigneur, commercialement parlant, ça ne tient pas la route ce que tu me dis, parce que je vais dépenser mon héritage pour acheter un champ, et puis Babylone, ils sont à la porte, d'ici quelques jours, ce champ appartiendra aux Babyloniens. Donc, Seigneur, t'es pas bon en affaires. Si tu veux, je peux te donner un cours d'immobilier, mais là, ça colle pas ton affaire, vous voyez ? Et Seigneur lui dit, donc, alors, très poliment, Jérémie dit, Seigneur, rien n'est de ta part, tu es le grand Dieu, tu as tout, enfin, vous voyez, il fait une superbe prière, et puis à la fin, quand même, il glisse un, mais enfin, je ne comprends pas ce que tu me demandes, vous voyez ? Et Seigneur, très poliment, répond à Jérémie, mais tout à fait, tu as raison, les Babyloniens vont envahir ce pays. Seulement ce que tu oublies, c'est que moi j'ai un plan de restauration. Et que dans 70 ans, vous reviendrez ici. Et de nouveau, on achètera, vous rebâtirez, et ce pays sera rebâti. Vous voyez ? Ça, c'est la fidélité de Dieu. Et ça, Jérémie, ça lui fait exploser. Il ne comprend plus, là. C'est trop pour lui. C'est trop extraordinaire. C'est trop. Il est tellement sous le poids de la condamnation de Dieu sur son peuple. Il a tellement prêché le malheur, vous voyez, annoncé le malheur. Que tout à coup, maintenant, il faut annoncer aussi la miséricorde, il ne sait plus où il en est, le pauvre. Parce que la fidélité de Dieu, elle nous dépasse. Vous suivez ? Ok. Et quoi ? Si quelques-uns étaient infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu ? On l'a compris tout de suite, bien sûr que non. Si vous connaissez l'Ancien Testament, vous répondez tout de suite, mais bien sûr que non. On sait bien que Dieu est fidèle. Heureusement, d'ailleurs, pour nous. Si vous réfléchissez à vos propres péchés, à votre propre infidélité, hein ? Et c'est merveilleux de connaître la fidélité de Dieu. C'est extraordinaire. Certes non, verset 4. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. Ici, c'est une citation du psaume 51 où David confesse, il dit « J'ai péché contre toi seul, et tu seras juste dans ton procès contre moi. » C'est-à-dire que si tu me condamnes, tu as raison de me condamner, parce que j'ai vraiment péché. Vous voyez ? Donc ce que Paul dit ici, que Dieu soit reconnu pour juste, pour vrai, c'est dans le sens de dire, c'est pas Dieu qui est menteur, c'est nous qui sommes. Vous voyez ? C'est nous qui sommes infidèles, et c'est Dieu qui est fidèle. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est ça que Paul est en train de dire. Verset 5. « Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère ? Je parle à la manière des hommes. » Souvent, cette expression revient chez Paul. C'est-à-dire qu'il nous dit les questions très humaines qu'on a envie de poser. Il les pose pour nous, aider à avancer dans le... Hein, vous savez, l'enseignement rabbinique, c'est des questions et des réponses. Tout le temps. Vous voyez comment, à chaque fois, il pose une question, il répond, il pose une question, il répond. C'est comme ça que Paul avance. C'est aussi comme ça que Jésus faisait avec ses disciples. Qui dites-vous que je suis ? Et les hommes, ils disent quoi de moi ? Et vous, qu'est-ce que vous dites ? Donc, ils posent des questions, tout le temps. Hein ? Alors, si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu est injuste quand il se met en colère ? Il dit non. Parce que le raisonnement, c'est de dire bon. Si Dieu reste fidèle même quand je suis infidèle, alors autant que je reste infidèle, puis ça fait ressortir la fidélité de Dieu. Vous voyez ? Non, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? Donc, est-ce que c'est juste que Dieu se mette en colère ? Oui, c'est juste qu'il se mette en colère. Parce qu'il faut que quelqu'un fasse justice. Vous voyez ? Sinon, il n'y aura jamais la justice. Donc, est-ce que Dieu peut se mettre en colère? Oui, il n'est pas injuste quand il se met en colère. Même si mon injustice fait ressortir sa justice, il faut bien que quelqu'un fasse justice. On est, en tant qu'être humain, tous, quelque part, à la recherche de la justice. Ok? Donc, comment Dieu jugerait-il le monde s'il ne pouvait pas se mettre en colère, en d'autres termes? Est-ce que Dieu se met en colère? Oui. Il y a des gens qui pensent que le Dieu du Nouveau Testament ne se met pas en colère, c'est seulement Dieu d'amour, et que c'est le Dieu dans l'Ancien Testament qui se met en colère. Mais c'est le même Dieu. Il est autant amour, il est aussi amour dans l'Ancien que dans le Nouveau, et il peut autant se mettre en colère dans l'Ancien que dans le Nouveau. D'accord? Verset 7. Et si par mon mensonge la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? La condamnation de ces gens est juste. C'est-à-dire que Paul, il dit, c'est quand même scandaleux d'aller jusque-là de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Parce que c'est ce que les gens voulaient faire dire à Paul en disant, ah toi, tu parles de la fidélité de Dieu, donc on peut faire ce qu'on veut alors. Vous voyez? Et Paul dit, non, ce n'est pas du tout ce que Paul voulait dire. Quand Paul parle de la fidélité de Dieu et de sa grâce, eh bien, c'est dans le sens de nous sauver et de nous faire sortir du péché. C'est pas dans le sens qu'on pêche encore plus. Mais il reviendra là-dessus au début de Romains chapitre 6. Donc on continue Romains 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Absolument pas. Il parle donc, si vous voulez, il résume ce qu'il a dit par rapport aux Juifs qui se croyaient supérieurs. Il dit alors, est-ce qu'on est supérieur? Non. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, et il cite un psaume, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Et je m'arrête juste là-dessus. La notion de chercher Dieu, c'est très important dans l'Ancien Testament, notamment chez Esdras, l'auteur des Chroniques, et du livre d'Esdras, bien sûr. Esdras jauge les rois d'Israël, les rois de Juda, par rapport au fait, est-ce qu'ils cherchaient Dieu ou est-ce qu'ils ne cherchaient pas Dieu? Vous voyez? Donc, si j'arrête de chercher Dieu, je suis déjà dans le péché. Intéressant, hein? Si vous voulez, il n'y a pas de neutralité spirituelle. Nous, on pense qu'on peut être neutre spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils disent, mais moi... Quoi? Pourquoi tu rigoles? Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils sont neutres dans ce sens qu'ils disent « Ah, mais moi, je fais de mal à personne. »
C'est des Belges spirituels.
Ouais, ou les Suisses. Je fais de mal à personne. D'accord. Maintenant, je ne m'occupe pas de Dieu. Je ne sais pas s'il existe. Je ne m'en préoccupe pas. Je ne cherche pas. Mais en même temps, je me conduis bien. Donc, où est le problème? La Bible dit que si tu ne cherches pas Dieu, tu es déjà dans le péché. Nul ne cherche Dieu. Et si vous lisez Esdras, vous comprenez tout de suite que ceux qui n'ont pas cherché Dieu, sans le vouloir peut-être, mais ils sont sur la pente descendante. Il n'y a pas de chemin plat. Soit tu montes, soit tu descends. Vous voyez, il n'y a pas de plateau. Hein. Donc, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Tout ça, c'est les versets 10 à 18 de Romains chapitre 3. Donc, il décrit ce texte décrit tous les domaines, si vous voulez, de péché, les paroles, les actions, les pensées, l'intelligence qui est pervertie, dans tous ces domaines-là, l'homme est irrémédiablement perdu dans le péché. Or, verset 19, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, ouais. car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, c'est intéressant cette question ici du verset 19, « Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Donc le but de la loi, c'est de nous montrer que nous sommes pécheurs et condamnés. C'est même pas de nous sauver. La loi ne peut pas te sauver. Mais la loi te montre à quel point tu es loin de Dieu et tu as besoin de lui. La loi, dit Paul dans Galates, est un pédagogue qui nous mène à Christ. Vous voyez ? Tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Ça paraît étonnant, hein ? Parce que nous, on dirait l'inverse. On dirait non, mais si Dieu a donné une loi, c'est pour que l'homme la respecte et tout se passe bien. Et dans un sens, oui, il l'avait fait. Mais en même temps, Dieu sait ce qui est dans notre cœur à l'avance. Vous suivez ? Donc, il sait à l'avance qu'on ne va pas mettre la loi en pratique, on ne va pas y arriver, malgré tous nos efforts, si on fait des efforts, parce qu'il y en a qui ne font même pas l'effort, ça dépend des situations. Mais quoi qu'il en soit, au final, même si on essaye de se défendre par rapport à l'autre, en disant « mais j'ai fait ça », toute bouche sera fermée. Vous voyez ? On est tous condamnés. On a tous besoin de Jésus-Christ. Vous suivez ? Donc Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché afin de faire miséricorde à tous. Le but final de Dieu, c'est la miséricorde. Ok ? Ce que Dieu souhaite, c'est qu'on se jette dans ses bras en disant « j'y arrive pas, aide-moi ». Vous suivez ? C'est un peu comme si vous aviez un enfant qui veut aider son père à faire de la menuiserie ou à faire je ne sais pas quel bricolage et que l'enfant prétend savoir faire tout seul. Et le père n'arrive pas à lui communiquer quoi que ce soit parce que l'enfant, il veut faire tout seul. Bon. Alors, la meilleure manière de faire apprendre à l'enfant, c'est de dire « ok, vas-y, simplement, il faut arriver à tel résultat. Vas-y maintenant. » L'enfant va tout faire, il ne va pas y arriver. Jusqu'à ce que finalement, il va se tourner vers son père en disant « maintenant, montre-moi comment il faut faire. » Vous comprenez ? Et avec le père, ce sera facile. Et ce que Dieu veut, c'est une communion avec nous. Il nous a donné une loi parfaite, ce n'est pas pour nous écraser. Ce n'est pas pour qu'on nous dise « mais c'est impossible à mettre en pratique de toute façon, alors pourquoi est-ce qu'il nous l'a donné ?» C'est pour être en communion avec nous. Vous suivez ? Le problème, c'est qu'on raisonne toujours comme si on était autonome, indépendant, sans Dieu. C'est ça le problème de l'homme. Il ne cherche pas Dieu. Il ne cherche pas sa communion. Il ne veut pas faire avec lui. Il veut faire sans lui. Le problème, il est là. Alors, on arrive ici au verset 20. Oui, une question ?
En fait, la parole de Dieu, c'est Dieu. Parce que s'il dit « au commencement était la parole », la parole était Dieu.
Oui. La parole de Dieu, c'est Dieu.
Parce que après il dit « toute oui. écriture est bonne dans oui. Timothée pour enseigner ».
Et donc, où est-ce que tu veux en venir ?
Eh bien, que c'est peut-être pour ça que les Juifs, ils sont tellement comme ça avec la parole. Parce que pour eux, c'est comme la représentation de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas se dire comment il est.
Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Oui, la parole était Dieu dans Jean chapitre 1, donc il y a une identification entre Dieu et sa parole, qui peut expliquer aussi pas mal de choses. Mais en même temps, il y a une différence entre Dieu et sa parole, parce qu'il donne sa parole, vous voyez ? Il est la parole par Jésus-Christ, mais il y a le Père, donc on rentre dans l'histoire de la Trinité, le Père, le Fils et Saint-Esprit, si tu veux. D'accord ? Mais on va peut-être pas rentrer là-dedans maintenant, parce que ça compliquerait les choses. Verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc, c'est ce que je disais par rapport au verset 19, la loi ne peut pas nous sauver. La loi ne fait que nous montrer que nous sommes pécheurs. Et ce que Dieu veut, au final, c'est une relation avec nous. Vous voyez ? Donc Paul a conclu, il a réussi à démontrer que lorsque on pointe du doigt quelqu'un, il y a trois doigts qui pointent vers nous. Vous voyez ? Lui, il a fait ça. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu as fait, toi ? Vous voyez ? Tu l'as montré à personne ? Peut-être que l'adultère, tu l'as commis dans ta tête, mais tu l'as commis quand même, aux yeux de Dieu. Donc arrête de pointer du doigt la prostituée, l'homosexuel, c'est pas comme ça que tu vas te justifier. Parce que tu es tout autant pécheur, peut-être pas dans les formes, mais potentiellement, le cœur, il est aussi pourri que possible. Vous voyez ? On a tous besoin d'un sauveur. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, on arrive maintenant à Romains, chapitre 3, verset 21. On va faire une pause maintenant, parce que j'aimerais qu'on puisse commencer au verset 21, j'allais dire en pleine forme. Et puis, entre-temps, je vais voir mon téléphone, parce que j'ai comme une petite intuition de quelle pourrait être la raison des coupures. Alors, je vous dis à tout à l'heure, peut-être à 10h, on redémarre sur Romains 3, 21. À tout de suite.